校园之声88.1
Campus Bordeaux
88.1
Chocolat au lait.
Une boisson un peu sucrée pour faire mieux passer la pilule avec Justine qui nous décrypte ces fameux cabinets de conseil.
Et oui, ça va être nécessaire parce qu'en ce moment au Sénat, les rires sont jaunes autour de la question des cabinets de conseil. Alors le jaune, c'est aussi le nom donné au rapport budgétaire de l'État. Une partie sur les recours au conseil extérieur, c'est un joli nom pour parler des cabinets de conseil, a été publiée la semaine dernière. Et en parallèle, se tient aujourd'hui un premier examen du projet de loi encadrant le recours à ces mêmes cabinets par l'État. Ça tombe à pic, beaucoup d'actualité sur le sujet. Alors ce week-end, je l'ai lu, ce jaune budgétaire, ce petit rapport sur McKinsey et comparses, je l'ai lu rien que pour vous. Donc on va revenir sur 34 pages, de gros tableaux et des informations lacunaires, mine de rien, sur les cabinets de conseil pointés par les sénateurs et sénatrices. McKinsey, on connaît deux noms. Ce cabinet de conseil avait défrayé la chronique l'année dernière lorsque le montant exorbitant de sa mission aux résultats bien légers avait été dévoilé. Mais McKinsey, ce n'est pas le seul cabinet de conseil auquel l'État fait appel. Le recours à de tels services a même été qualifié de phénomène tentaculaire par la sénatrice Éliane Assassi en charge de l'enquête parlementaire sur le sujet. Mais c'est quoi un cabinet de conseil ? Eh bien, c'est un outil formidable du New Public Management. Donc, tout simplement, lorsqu'une entreprise ou ici une administration ne peut pas utiliser ses services internes pour accomplir une mission, elle peut faire appel à des cabinets de conseil. Ces cabinets effectuent majoritairement des missions de conseil en informatique, en management ou en stratégie d'entreprise. Donc, ils analysent le terrain, ils vont parfois à la rencontre des travailleurs et ils proposent des solutions et des plans stratégiques par le biais de rapports qu'on appelle des livrables. Ces missions, on le comprend, sont supposées être ponctuelles, répondre à un besoin bien précis et non pas à des questions clés ou des stratégies profondes qui guideraient un quinquennat entier, notamment lorsqu'on parle d'administration publique censée être plutôt indépendante vis-à-vis du privé. Ça, c'est la théorie. Et le jaune budgétaire, comme la commission d'enquête sénatoriale nous le montre, les cabinets de conseil rythment en réalité la mise en place des politiques publiques. Et on ne parle pas que de paperasse kafkaïenne ou de formulaires obscurs. On parle ici des grandes réformes menées par le gouvernement dans tous les domaines d'intervention de l'État. On parle du ministère de l'Intérieur comme celui de la transition écologique ou encore, et c'est un des plus sensibles, celui de la santé. De la réforme du calcul des APL qui nous touche tous ici, je le suppose, à un rapport sur le métier d'enseignant en passant par un manuel sur le télétravail ou la distribution des masques pendant le Covid, derrière ces productions associées à l'administration publique, on trouve en réalité des cabinets de conseil comme Capgemini, McKinsey ou Accenture.
Et que dit donc alors ce fameux jaune budgétaire dont tu parlais ?
Alors, le bilan du gouvernement, c'est 4854 commandes au cabinet en 2021 pour la modique somme de 271 millions d'euros. Et pour le premier semestre 2022, on décompte pas moins de 2000 commandes de ces prestations intellectuelles, comme le dit le rapport, pour un montant de 118 millions d'euros. Bon, deux problèmes déjà. Le gouvernement se targue d'une diminution de 9% de ses dépenses, alors qu'il s'était engagé à une diminution de 15%, et le chiffre reste provisoire, l'année n'étant pas terminée. Et second souci, le gouvernement a choisi, de façon arbitraire et sans le justifier dans son rapport, de ne pas inclure les dépenses en conseil informatique, qui, comme je le précisais, sont les principales dépenses en cabinet de conseil. Sauf que si on inclut les dépenses en conseil informatique, on passe de 271 millions à 469 millions d'euros. Petite marge, hein, quand même. Et finalement, en mars dernier, la commission d'enquête avait conclu à un total de 893,9 millions d'euros pour l'année 2021, quasiment 1 milliard, un record. Mais le record, il est aussi pour le ministère de la Transition écologique qui gagne cette année la première place du concours du ministère dépensant le plus en cabinet de conseil. Et suivent le ministère de l'Intérieur et de l'Économie. Les cabinets stars se comptent sur les doigts d'une main, mais ils sont quand même assez importants. On compte Soprasteria, Tecnoambiente, Inops, McKinsey, Eurogroup, mais le chouchou des ministères reste le fameux Capgemini. Ce cabinet a reçu 80 commandes pour un total de 43,5 millions d'euros. Et pourquoi faire ? Eh bien, l'entreprise a été, selon les termes du jaune, un appui de la Direction générale des étrangers en France et a globalement refondé le système d'information de gestion de l'asile et des visas. Reste à déterminer ce que le mot « appui » recouvre et en quoi il a justifié des milliers d'euros. Le cabinet a aussi développé le volet numérique du Ségur de la Santé ou encore a aidé à l'évaluation de l'action publique. Bon, reste à savoir encore une fois ce que ces titres signifient parce que ce n'est pas très clair. Et justement, le problème est là. La liste des missions et des résultats exacts, concrètes, précises, détaillées n'est pas publiée par le gouvernement. Le jaune budgétaire de la semaine dernière ne fait que 34 pages, je les ai lues, finalement c'est pas si long, et les informations restent transmises dans un jargon obscur que certains qualifieraient même d'un peu fumeux. Parce que quand je vous parle de prestations intellectuelles ou de projets de transformation transverse, vous m'accorderez que les mentions pourraient se permettre d'être un peu plus concrètes, surtout quand des millions sont en jeu.
C'est donc seulement un manque de transparence qui leur est reproché ?
Un manque de transparence, oui, mais aussi des risques accrus de conflits d'intérêts. Et c'est ce que démontrent les enquêtes du Monde et de Mediapart, comme la commission d'enquête d'Eliane Assassi. Ces risques proviennent de la proximité entre les responsables publics et les dirigeants de ces cabinets. Entre pantouflage et conflit d'intérêts impliquant les autres clients privés, cette fois des cabinets, de la pratique du conseil ne semble pas si innocente. Rappelons que le but premier de telles entreprises n'est pas le bien commun ou le service public au sens littéral du terme, mais bien le profit. Donc la qualité des travaux rendus et les orientations qu'ils promeuvent posent aussi question. Évaluées très sommairement par les ministères, certaines missions sont avérées de piètre qualité. Pourtant, elles coûtent des millions. Quelques fiches d'évaluation ont été récupérées par les journalistes Maxime Vaudano et Adrien Sénéca. Une traite en particulier d'une mission sur les handicaps réalisée par Capgemini et évaluée à 1 sur 5 par l'administration. C'est une des notes les plus basses possibles. Les commentaires soulèvent, je cite, une compréhension limitée du sujet, des difficultés de montée en compétences et des reprises quasi totales du dossier par l'administration elle-même suite au rendu. Coût de cette mission, 280 200 euros. Mais heureusement, les responsables ont souligné que les consultants étaient, je cite, de très bonne compagnie. Tant mieux pour eux. Le recours massif au cabinet est devenu le réflexe d'un État qui ne semble plus savoir faire, selon Eliane Assassi, ou en tout cas qui ne pense plus savoir faire. La problématique des cabinets de conseil est multiple. Ces recours nous questionnent sur la pertinence de certaines dépenses publiques, la dépendance de l'État vis-à-vis du privé et la souveraineté de ses décisions, mais aussi et surtout la confiance et l'estime portée aux administrations publiques par le gouvernement. Somme, il serait bon de se demander si investir dans un cabinet comme EY qui propose la suppression de 150 000 postes de fonctionnaires compensés par l'utilisation du numérique est une si bonne idée, et s'il ne faudrait pas mieux écouter les professionnels du milieu, les revendications des travailleurs et des travailleuses, et cesser de laisser des intérêts privés orienter les actions du public.
Campus Bordeaux
88.1.
Et merci beaucoup Justine, hein, déjà d'avoir lu ce rapport de 34 pages pour nous, d'y avoir consacré ton week-end. Je voyais Joris faire une tête un peu, comment dire, non,
enfin si, un peu exaspéré quoi, mais bon, on s'attendait pas à moins malheureusement. D'ailleurs, qu'est-ce que ça va donner par la suite, ce rapport ? Ça sera étudié, ça sera...
Alors, le jaune budgétaire, il est en annexe du projet de loi finance, qui va peut-être être voté en 49.3 d'ailleurs demain. Enfin, passé en 49.3, on ne peut pas appeler ça voter. Mais aujourd'hui, il y a le Sénat qui analyse, enfin qui commence à examiner un projet de loi, justement pour encadrer ses recours. Est-ce qu'il va être voté ? Dans quelle mesure les amendements aussi seront passés pour... plutôt dicter un recours super strict ou au contraire vraiment lâcher un petit peu du lest sur ça, on ne sait pas encore. C'est le début en fait de la régulation autour de ça, mais la régulation, ils ont plein d'outils. Il y a des listes de commissions et de pôles de gestion, mais en fait au niveau des punitions, par exemple l'affaire de Capgemini qui a eu une mission à 1 sur 5, bah, ils ont quand même reçu les 280 000 euros. Il n'y a pas eu de punition, il n'y a pas eu de diminution, et ils commencent à y réfléchir, mais pour l'instant c'est très peu appliqué, voire pas du tout appliqué.
Et à votre avis, pourquoi on a autant recours à ces cabinets de conseil ? C'est quand même un peu particulier.
Est-ce qu'on détruit le service public ?
Ben oui, mais d'ailleurs, c'est ça qui est révoltant, c'est que on a des hauts fonctionnaires qui sont censés être formés par rapport à ce genre de mission.
Et de faire ce travail.
Et en fait, on dépense des millions pour des cabinets conseils qui, on le voit des fois, font mal leur travail en plus. Heureusement qu'ils sont de bonne compagnie, mais ça fait cher la bonne compagnie.
Ouais, mais... ils ont dû boire des bons cafés. Hein. Non, mais on a diminué énormément le nombre de postes aussi, et pourtant augmenté les demandes de mission. et une personne ne peut pas faire le travail de 4 personnes. Et avec les budgets ont été vraiment réduits et donc ils sont obligés, parce qu'ils ne peuvent pas, avec le concept de la fongibilité, ils ne peuvent pas remettre plus de budget que ce qui a été voté. Enfin, c'est un peu complexe, mais voilà, c'est surtout une question aussi de SAP, de la caisse du service public, hein, entre guillemets.
En plus, l'origine de ces cabinets de conseil n'est pas forcément française.
Non. Alors, enfin, ils ont des filiales français, mais sinon, les trois plus grands qu'on appelle les Big Three, c'est McKinsey, Bain & Company et Boston Consulting Group. C'est en gros des cabinets américains ou anglo-saxons, en tout cas, qui s'implantent après dans différents pays. Et non, c'est pas la plupart. Je crois qu'il n'y en a que deux là dans la liste des principaux qui sont français.
McKinsey, hein, qui avait fait beaucoup de bruit dans les médias. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'est un cabinet de conseil qui a fait aussi de nombreux dégâts, notamment aux États-Unis, avec la crise des opioïdes, qui ont fait une... Parce qu'en fait, McKinsey, c'est une sorte de boîte de communication et de stratégie marketing. Hein, et ils avaient une mission, c'était de vendre les opioïdes aux Américains. Et ils ont fait une telle campagne qu'on peut qualifier de propagande, que les opioïdes ont été de mieux en mieux acceptés, de plus en plus prescrit, et maintenant je crois que ça a été multiplié par ça a quadruplé le nombre de décès liés aux opioïdes entre 99 et 2018. Maintenant il y a environ 232 000 Américains qui meurent d'un usage abusif de ce médicament. Et alors, c'est pas du tout un truc de junkie, hein, pour vous expliquer, c'est-à-dire, je sais pas, par exemple, vous avez une rage de dents. Votre médecin vous prescrit ce médicament pour passer le week-end, le temps de trouver un autre rendez-vous. Et alors, c'est très addictif. Hein. Des fois, c'est comparé même tel à une prise d'héroïne. Et très vite, en fait, ça brise des vies et vous pouvez vous retrouver dans un engrenage d'addiction et de faire un surdosage. Donc voilà, c'est pas très rassurant de voir que McKinsey, qui a eu une grosse influence aussi dans la politique sanitaire liée au Covid, et qui soit allé les solliciter eux. Franchement, ça pose quand même de nombreuses questions. On n'est pas sorti d'affaires, surtout que tout ça, c'est légal.
Oui, c'est complètement légal. Alors, c'est légal, mais par exemple, il y a la direction interministérielle, la transformation publique, un très très beau titre. C'est eux qui gèrent un peu les recours au cabinet de conseil. Sauf qu'au sein de cette direction, il peut aussi y avoir des anciens des cabinets de conseil. Donc il y a du pantouflage, il y a ce qu'on appelle du rétro-pantouflage, c'est-à-dire des personnes d'entreprise qui vont dans le service public, mais finalement il y a un entre-soi aussi qui se forme et qui est vraiment délétère pour les politiques publiques, enfin en tout cas leur mise en place.
En tout cas, merci une nouvelle fois, Justine. Je suis sûre que tu auras encore plein de choses à débunker.
De nous avertir, parce que bizarrement, encore une fois, tout le monde est très discret. Hein,
ah oui, le rapport budgétaire, il n'a pas fait beaucoup de bruit. Hein.